Le journal Sébastien Legenis. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin, des milliers de vacanciers évacués cette nuit dans le Var à Bormes-les-Mimosas, conséquence d'un incendie important qui a déjà ravagé 800 hectares. Plus de 500 pompiers sont sur place. Le département du Var, dernier point sensible sur le front des incendies. Nous serons également en direct de Martigues où le feu est sous contrôle mais encore menaçant. Au programme également, le rapport alarmant de Human Rights Watch sur les migrants de Calais, victimes régulières de gaz au poivre. L'hommage national au père Hamel. Ce matin, un an après son assassinat à Saint-Étienne-du-Rouvray, la personnalité très controversée de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. En politique, toujours votre invité, Pierre, à 8h20, Bernard Accoyer.
Le secrétaire général du parti Les Républicains, ancien président de l'Assemblée nationale. Avec lui, bien sûr, question sur les débuts du quinquennat d'Emmanuel Macron et puis l'état du parti Les Républicains. Vous pourrez interroger Bernard Accoyer en appelant le 01 45 24 7000 dès maintenant et vos questions en direct sur l'antenne à 9h20, interactive.
On vous parlera aussi dans ce journal d'anciens cadres supérieurs devenus boulangers, du baclofène que les médecins comptent toujours prescrire à forte dose aux alcooliques et du dernier film de Luc Besson et de son opéra 3D Valérian. On part tout de suite pour le sud-est de la France avec de nouveaux incendies et des évacuations en cours très importantes. Un feu de grande envergure près d'une station balnéaire bien connue, celle de Bormes-les-Mimosas dans le Var, qui voit sa population tripler chaque été. Le feu a donc pris vers minuit autour de la Londe-les-Morts, non loin de l'aéroport de Toulon, pour se diriger ensuite vers le Cap Bénat. Les flammes menacent maintenant les campings autour de Bormes. Résultat, 12 000 personnes ont été évacuées, des vacanciers mais aussi des habitants. Écoutez Isabelle Canon, adjointe au maire de Bormes-les-Mimosas.
À l'heure actuelle, on a 560 hommes qui sont engagés dans la lutte contre l'incendie. Là, on vient d'apercevoir deux traqueurs qui arrivent sur site. Plusieurs milliers de personnes sont accueillies. On est à peu près 12 000 personnes là. On a évacué 12 000 personnes, c'est-à-dire les terrains de camping, les villas, les résidences, les villages de vacances, etc. La nuit a été très compliquée, tant en termes de gestion, d'évacuation, de routes fermées et tout ce que vous pouvez imaginer comme désespoir aussi, on va dire. Nous, depuis la mairie, on voit, pour l'instant, on voit tout le ciel enfumé et on voit encore toute la crête qui fume énormément. Et dans la nuit, on voyait toutes les flammes qui étaient tout le long de la crête qui nous a pour l'instant protégés, puisque le vent a amené plutôt le feu vers l'autre côté, c'est-à-dire vers la mer.
Isabelle Canon, adjointe au maire de Bormes-les-Mimosas. Sur les autres fronts, les feux sont en majorité circonscrits à Calmy, en Haute-Corse, à la Croix-Valmer, près de Saint-Tropez ou dans le Luberon. Au total, 4000 hectares ont été détruits, plus de 20 secouristes blessés. Le Var reste donc ce matin le dernier point chaud avec Bormes-les-Mimosas, on l'entendait, mais aussi près d'Artigues où les flammes risquent à tout moment de reprendre. Bonjour Adrien Toffolet, vous êtes à Artigues justement. Alors quelle est la situation à cette heure-ci ?
Eh bien, pour l'instant, la situation semble officiellement stabilisée après une journée et une nuit éprouvantes pour les sapeurs-pompiers. En tout, ces 1700 hectares qui ont été parcourus par le feu sur les secteurs d'Artigues, dans l'arrière-pays varois, avec des moyens énormes, 400 pompiers sur le terrain et dans les airs, 4 canadaires, 2 traqueurs et 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui se sont relayés. Cette nuit, ils ont eu affaire face à quelques reprises de feu rapidement maîtrisées. À titre préventif, plusieurs centaines d'habitants du village voisin de Seillon-Source d'Argent avaient été évacués. Et si ce matin la situation semble donc stable, ici on ne sait pas comment ça va évoluer au poste de commandement des pompiers. Ce matin, on ne cache pas son inquiétude, la situation peut vite se compliquer, d'abord avec le vent qui souffle très fort déjà et les températures qui vont monter très vite. Le risque de reprise est immense à n'importe quel endroit des 1700 hectares parcourus par le feu. Et puis il y a la fatigue qui se lit sur les visages, les journées sont longues sur le terrain et dans les airs. Certains pompiers sont engagés depuis plus de 36 heures, un pompier a été blessé cette nuit et hospitalisé sans que ses jours ne soient en danger. Ici à Artigues, on attend avec impatience la relève qui doit arriver dans la matinée, avec une crainte en fond de tableau qu'une partie des moyens humains et matériels déployés ici ne soient envoyés en renfort à Bormes-les-Mimosas, où la situation à l'heure actuelle est beaucoup plus préoccupante. Artigues, Adrien Toffolet, Eric Audra, France Inter.
Notre reporter l'évoquait à l'instant, les pompiers s'inquiètent de manquer de moyens. Beaucoup d'entre eux s'estiment sous-équipés avec des avions souvent vieillissants en réparation. Un exemple en Haute-Corse, alors que le feu feu faisait rage hier, un seul bombardier était disponible. Il a fallu faire appel aux Italiens et attendre plusieurs heures avant de voir arriver un Canadair supplémentaire. C'est dans ce contexte de grogne des pompiers et des élus que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a annoncé hier la commande de 6 nouveaux bombardiers d'eau de type Dash-8, mais qui n'arriveront pas avant des années.
8h05, le journal Sébastien Logénie. Sébastien, les uns diront un rapport de plus, les autres qu'il est essentiel, car il vient documenter, confirmer une réalité insupportable sur la situation des migrants de Calais.
Oui, ce rapport, c'est celui rendu public cette nuit par Human Rights Watch, avec ce titre alarmant, Calais, c'est comme vivre en enfer. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Vous avez lu ce rapport pour nous, l'ONG dénonce des pratiques policières que jusqu'ici les autorités françaises ont toujours niées, notamment l'usage, je cite, routinier du gaz au poivre contre les migrants.
Oui, routinier et souvent injustifié. D'après ce rapport, la police gaze les adultes comme les enfants, y compris quand ils dorment ou qu'ils ne représentent aucune menace. Et ça vient confirmer ce que certains migrants de Calais, comme Goudzard, ont déjà confié à France Inter.
Police every time come and spray us. When we sleep, they spray.
La police passe son temps à nous gazer quand on dort, elle nous gaze, explique cet Afghan de 23 ans. C'est douloureux, ces dernières 48 heures, je n'ai pas dormi. Ce gazage répété n'est pas sans conséquence, il fait extrêmement mal aux yeux et provoque des difficultés respiratoires pendant 30 à 40 minutes. La nourriture aspergée ne peut plus être mangée, les sacs de couchage et les vêtements doivent être lavés. Ce sont des abus graves, souligne l'ONG, contraires au code de déontologie policière et aux traités internationaux. Ces pratiques, les autorités les réfutent. Le préfet du Pas-de-Calais parle de mensonges et de calomnies. Le syndicat UNSA Police côté CRS dénonce un dossier à charge. Mais ce rapport, d'une ampleur inédite, va dans le même sens que le constat dressé il y a un mois par le défenseur des droits. Mi-juin, Jacques Toubon s'inquiétait d'une traque des migrants à Calais et d'atteinte aux droits d'une exceptionnelle et inédite gravité.
Rosalie Lafarge, merci. L'hommage de la France aujourd'hui au père Jacques Hamel. Il y a un an, le prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray était assassiné, égorgé dans son église par deux djihadistes. Une cérémonie aura lieu aujourd'hui à 9h, à l'heure précise où le père Hamel a été tué. Cérémonie en présence du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et du président de la République, Emmanuel Macron, qui doit prononcer un discours dans la matinée. Le père Jacques Hamel pourrait par ailleurs être reconnu comme un martyr de l'Église. C'est à cette fin que son procès en béatification s'est ouvert plus rapidement que d'habitude. À Rome, Mathilde Imberti.
La sainteté ne se décrète pas. La béatification du père Hamel, si elle est validée, interviendra au terme d'une procédure très précise. Le pape François a déjà consenti une exception en autorisant l'ouverture du procès en béatification quelques semaines seulement après la mort du prêtre. Le droit canonique oblige normalement à attendre 5 ans avant de lancer toute démarche. Cette exception n'a été consentie que 2 fois dans l'histoire récente, pour Jean-Paul II et pour Mère Teresa. Au diocèse de Rouen, le postulateur pour la cause de Jacques Hamel, le père Paul Vigouroux, travaille donc d'arrache-pied pour réunir les témoignages nécessaires.
Il y a une liste de 69 témoins, qui sont les 5 des témoins du drame du 26 juillet. Il y a aussi des personnes non chrétiennes. Alors, pour établir qu'un prêtre est martyr, il y a 2 éléments. D'abord, il faut vérifier que les assassins ont agi en haine de la foi chrétienne. Et puis, il s'agit de regarder comment le père Hamel aussi est mort. Voilà. Est-ce qu'il a continué à aimer, quoi qu'il arrive ?
Une fois bouclé le procès dit diocésain, à l'automne 2019, espère le père Vigouroux, le dossier passera à Rome, à la Congrégation pour la cause des saints, où il sera étudié de nouveau de fond en comble, avant de définir éventuellement que Jacques Hamel, au sens de l'Église, est mort le 26 juillet 2016 en martyr. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Retour en France en politique avec Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui assume ce matin la décision de baisse des allocations logement. J'assume, dit-il dans les colonne du Parisien, cette mesure qui peut paraître brutale, ajoutant « la meilleure façon d'être populaire, c'est de ne rien faire ». Fin de citation.
Sébastien, au gouvernement, c'est une voix qui détonne et qui agace aussi.
Oui, cette voix, c'est celle de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, au cœur de plusieurs polémiques ces derniers jours. Dernière en date, la question de l'épisiotomie. La secrétaire d'État s'est mise à dos les gynécologues obstétriciens avec des chiffres alarmants qu'elle confirme en précisant que près d'une femme sur deux en subirait une pour son premier enfant. Sûre d'elle, donc, Marlène Schiappa, une fidèle du président Macron, dont les prises de position et les polémiques suscitées contrarient de plus en plus d'associations féministes. Karine Bécard.
En seulement 2 mois et demi, autrement dit depuis sa nomination au gouvernement, Marlène Schiappa a beaucoup parlé déjà de la PMA, des violences obstétricales, du harcèlement dans la rue, du congé de maternité unique. Bref, la secrétaire d'État à l'égalité parlerait beaucoup, mais agirait bien peu pour la féministe Caroline De Haas.
À cette date-là, lorsque Najat Vallaud-Belkacem a été nommée ministre des droits des femmes, il y avait déjà une loi sur le harcèlement sexuel qui avait été adoptée. Pour l'instant, au bout de 3 mois, on n'a pas de signe manifeste d'une volonté de ce gouvernement, Marlène Schiappa inclus, de faire de l'égalité femmes-hommes une priorité politique.
Les milieux féministes reprochent donc à Marlène Schiappa de seulement occuper le terrain, en tweetant surtout et en polémiquant, ce qui ne serait pas une si mauvaise méthode pour Isabelle Germain, fondatrice du journal d'information paritaire Les Nouvelles News.
Je ne sais pas si elle enchaîne les bourdes, en tout cas elle prend des risques et de ce point de vue-là, moi je trouve que c'est assez positif. Ce côté frondeuse, débutante en politique a finalement des vertus, puisque ça permet de mettre tous ces sujets sur la table.
Reste à savoir maintenant si Marlène Schiappa, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, saura se faire entendre du président. Candidat, son discours était apparu féministe, les associations avaient apprécié, mais elles ont visiblement quelques difficultés aujourd'hui à le retrouver.
Karine Bécard du service politique de France Inter. Une information de plus dans le dossier GMS qui devrait rassurer les salariés. Selon nos confrères de France Bleu Creuse, le repreneur potentiel GMD a annoncé qu'il allait racheter les murs de l'usine creusoise pour 1 million d'euros. Le dossier devrait être tranché par la justice lundi prochain. En économie toujours, cette décision du tribunal de commerce de Tourcoing, cette fois très attendue aujourd'hui. Les juges doivent décider du sort de 470 salariés de TIM, cette usine de cabines d'engins basée à Cadipre dans le Nord. Des salariés qui ont le sentiment d'avoir été oubliés des pouvoirs publics, contrairement à ceux de GMS. Ils craignent une liquidation judiciaire pure et simple. Deux offres de reprise ont pourtant été déposées. Les chantiers navals de Saint-Nazaire, nouvelle pomme de discorde entre Paris et Rome. Alors qu'on croyait le dossier de rachat bouclé, les autorités italiennes auraient rejeté hier la nouvelle proposition de partage faite par Emmanuel Macron. Pas question d'un 50-50 comme le veut pour le président français. Les Italiens voudraient désormais une majorité des parts, une information toutefois non confirmée en France par Bercy. Les chiffres du chômage qui font du yo-yo après une hausse en mai, le nombre des demandeurs d'emploi repartent à la baisse en juin, moins 0,3%, moins 10 900 chômeurs de catégorie A. Le chômage qui, on le sait, touche très peu les cadres les plus diplômés, des cadres qui pourtant sont de plus en plus tentés par le changement de vie radical, passé de commercial à pâtissier par exemple. C'est de moins en moins rare, exemple avec ce diplômé d'école de commerce et qui est devenu aujourd'hui l'un des boulangers les plus célèbres de Paris. Jules Brélaz.
Ces escargots choco-pistache sortent tout juste du four.
Cette pâte à croissant roulée avec de la crème pâtissière ici, avec de la crème de pistache et des pépites de chocolat.
À l'entendre parler de ces viennoiseries, difficile d'imaginer la première vie qu'a eu Christophe Vasseur, ancien commercial à Hong Kong, spécialisé dans les foulards de luxe.
J'animais un réseau de distribution d'accessoires de mode sur la zone Asie-Pacifique. Donc bac plus 5 et à l'arrivée des 30 ans, réalisant que ce que je faisais, c'était pas moi, c'était pas ma vie, c'était pas mon truc.
Des années et un CAP plus tard.
Aujourd'hui, je vends du pain. Vous voyez, il y a quelque chose qui est du fondamental. Un accessoire de mode, c'est pas essentiel à votre quotidien. C'est à la fin, c'est ce qui me prenait vraiment la tête de tenir un discours auprès de mes clientes. Achetez ça, vous serez plus belle avec. Je suis désolé, mais c'est des conneries tout ça.
Commercial devenu boulanger ou encore manager devenu pâtissier, Jean-Laurent Casselli, journaliste au site slate.fr, appelle ce phénomène la révolte des premiers de la classe. C'est le titre de son livre paru en mai dernier chez Arquet.
Je pense que dans les têtes, dans les esprits, c'est un phénomène qui est massif. Il concerne une minorité de personnes, mais cette minorité-là, c'est une avant-garde qui révèle un malaise vraiment très profond et qui suscite des questionnements chez l'ensemble des diplômés et du tertiaire.
Le CAP est la nouvelle HEC, ironise l'auteur. Une plaisanterie, dit-il, mais en attendant, Christophe Vasseur, lui, a été sacré meilleur boulanger de Paris et son pain trône désormais sur les tables de deux restaurants d'Alain Ducasse.
Un reportage de Jules Brélaz.
C'est l'un des films, Sébastien Eugénie, les plus attendus de l'année.
Valérian et la cité des mille planètes, le nouveau film de Luc Besson arrive enfin sur les écrans aujourd'hui. Rihanna, Cara Delevingne, un casting très VIP pour une histoire inspirée de la célèbre bande dessinée de science-fiction des années 60 de Jean-Claude Mézières et de Pierre Christin, vendue à plus de 5 millions d'exemplaires partout dans le monde. C'est aussi le film français le plus cher de tous les temps, 190 millions d'euros, dont la moitié allouée aux effets spéciaux. Et ça en valait la peine pour notre spécialiste cinéma Corinne Pellissier.
C'est un véritable choc visuel, un univers entier peuplé de millions d'espèces et de créatures étranges dans un décor très pop, tout en 3D. Le projet le plus cher, le plus ambitieux du cinéma français. 5 années de travail, 2734 effets spéciaux d'un naturel bluffant. Et tout au bout de la chaîne, un homme heureux, Luc Besson, qui rêvait depuis longtemps d'adapter sa bande dessinée préférée.
Valérian et Laureline, agents spatio-temporels qui mettent des claques aux aliens qui passent. C'est juste une porte ouverte sur l'évasion. Je suis vraiment parti avec beaucoup d'humilité parce que je ne savais même pas si on arriverait à aller jusqu'au bout.
Bienvenue sur Alpha. la cité des mille planètes.
Nous voilà donc propulsés en 2740 au cœur d'une mission très spéciale pour Laureline et Valérian qui vont devoir évoluer dans deux mondes parallèles en même temps. Un vrai film d'aventure construit comme une enquête policière un peu vintage, souvent très drôle et au casting très branché. Dans les rôles titres, Cara Delevingne et Dan DeHaan qui incarnent un Valérian plus tête à claque que jamais.
Il est assez frimeur, il est même un peu con des fois. Et en fait, c'est elle qui tient la boutique, c'est Laureline. C'est exactement le reflet de la société d'aujourd'hui.
Tu dragues ? Moi pas.
Ouais, on fait une super équipe.
Corinne Pélissier qui a donc aimé Valérian de Luc Besson. Un mot de sport pour terminer. Résultat à retenir, le nouveau titre de champion du monde de l'équipe de France d'escrime en Allemagne. Et un match à venir, celui de l'équipe de France féminine de football dans l'Euro 2017. La France qui joue son ticket pour les quarts de finale ce soir aux Pays-Bas contre la Suisse. Match décisif, coup d'envoi 20h45 à Bréda. Allez les filles.